One, two, three, ho!
Nous autres, hommes libres à vélo, surnageant au cœur des marées d'aciers enchevêtrés, les bouchons, devons faire preuve de compassion et ne voir dans ce visage déformé par l'invective derrière son pare-brise qu'une sorte de comte de Monte Cristo emmuré dans son château d'If mobile. Quoique, en l'occurrence, à peine.
Salut tout le monde, vous aimez Causer Vélo, vous êtes au bon endroit. C'est la dernière émission du mois et pour chaque dernière mensuelle, Pause Vélo tend le micro au socket en titane. Générique.
Les sockets en titane.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'émission dédiée au vélo, les sockets en titane. Alors je suis en très bonne compagnie. Bonjour Mélodie, comment tu vas ?
Salut, ça va très bien et toi ?
Ça va très bien. De quoi vas-tu nous parler en deux petits mots aujourd'hui ?
Du vélo.
Mais c'est encore ?
Pas étonnant. D'amour. En tout cas, les raisons pour lesquelles c'est bien, c'est très bon pour nous de rouler à vélo.
Parce qu'aujourd'hui, c'est la Saint-Vélotin et j'ai aussi avec moi Katia, la nomade sédentaire. Bonjour Katia, comment tu vas ?
Triste tout ça, de toute l'actualité, d'entendre les pas contents qui s'opposent dès qu'on fait une avancée, qui sont là en train de freiner les quais de fer, d'aller en justice et compagnie. Donc aujourd'hui, je suis absolument navrée, mais j'ai pas écrit et je vais lire le texte de quelqu'un d'autre parce que sinon je voulais pas transmettre ma dépression à tous les auditeurs. Je vais lire un truc positif écrit par quelqu'un d'autre. Voilà.
Alors on a aussi des chouettes invités, le collectif des Alterpubs qui ont fait des pubs pour critiquer le salon de l'auto, voilà, en résumé. Et on fêtera donc la Saint-Vélotin. Donc oui. C'est la Saint-Valentin des amoureux du vélo. C'est aujourd'hui et ça tombe à deux jours près, la Saint-Vélotin. On l'a déjà fêté l'année passée et on va en faire une tradition. Avec Pause Vélo notamment.
Ouais, c'est Pause Vélo qui a inventé la Saint-Vélotin.
Oui, c'est pour ça que c'est d'ailleurs eux qui m'ont dit « Bon, si on fêtait ça tous ensemble ?» Alors oui, évidemment, on répond à l'appel de la Saint-Vélotin. J'avais envie de vous parler aussi de l'agressivité entre cyclistes et automobilistes qu'on peut avoir malheureusement.
Ah bon ?
Donc on va parler du doigt d'honneur à vélo. Je te laisse la parole avec grand plaisir. Mélo ou vélo ?
Alors bonjour tout le monde. Alors vu le thème évidemment, je m'étais dit que j'allais préparer une petite chronique sur l'amour du vélo, l'amour de mon vélo. Mais je crois que je l'ai assez fait. Je vous ai déjà parlé de mon amour pour fiancé, n'est-ce pas ? Et de la liberté que le vélo me procurait. Et l'an dernier, à la même période, je vous présentais quelques chiffres de l'Observatoire du vélo en région bruxelloise. Et malheureusement, les chiffres ne sont pas encore sortis pour cette année. Et à mon avis, c'est parce qu'on a tellement roulé cette année qu'il y a trop de chiffres. Et donc, du coup, ça prendra peut-être un peu plus de temps. Alors cette fois, je me suis pensée sur les raisons qui poussent les citadins à prendre leur vélo. La première, c'est effectivement que le vélo, c'est plus sain. Il y a une étude qui a démontré que passer du temps sur son vélo, c'est bénéfique pour l'espérance de vie. Et on parle carrément d'un allongement de l'espérance de vie de presque 2 ans pour une activité quotidienne à vélo, ce qui est quand même pas mal. Rouler à vélo provoque évidemment une diminution des risques cardiaques, du diabète et des maladies cardiovasculaires. Ensuite, la deuxième raison, Katia, le vélo c'est plus rapide. La vitesse moyenne d'une voiture en ville est entre 21 et 12 km/h aux heures de pointe. Un vélo roule en moyenne à 15 km/h, donc on est vraiment dans la moyenne des automobilistes. En plus, en dessous de 5 km, ce qui est presque 90% des trajets domicile-travail pour les gens qui habitent à Bruxelles, donc en dessous de 5 km, le vélo est forcément plus rapide que la voiture. Évidemment, on rencontre beaucoup moins de problèmes de stationnement, mais par contre, pour le vol, ça, c'est autre chose. Ce qui est un vrai avantage, on en a déjà parlé ici aussi, c'est que le cycliste, il sait toujours quel temps il fera, parce que le cycliste ne sort jamais sans se préoccuper de la température qu'il fait dehors, parce qu'on l'a déjà dit, il n'y a pas de mauvais temps, mais il y a des mauvais équipements. La dernière cause, c'est qu'effectivement, le vélo est plus sûr. Je ne sais pas si vous connaissez le « safety by numbers », je ne sais pas si ça vous dit
oui,
quelque chose.
Oui, la masse critique, quoi. Ouais,
ouais, c'est ça. Mais c'est surtout le fait que plus on pratique le vélo à un endroit, plus le risque par kilomètre parcouru est moindre. Et donc, en fait, on a tendance à croire, parce qu'il y a de plus en plus de vélos, qu'effectivement, il y a de plus en plus d'accidents. C'est vrai. Mais par contre, il y a, la hausse des vélos est plus significative que le nombre d'accidents.
Voilà.
Et ce qu'on peut rajouter en plus par rapport à ça, c'est que plus on va être à rouler à vélo, plus les infrastructures vont s'améliorer. Et donc, la conclusion de ma chronique, comme à chaque fois, c'est « Roulez jeunesse
». On dirait un tram, mais ce n'est pas un tram, c'est une sonnette old school. Alors Katia, aujourd'hui tu n'as pas écrit de chronique, parce que le ton n'était pas très... t'étais un peu maussade.
Bah oui, je suis un peu fatiguée d'entendre les râleurs râler. Plutôt que de faire un billet d'humeur et un coup de gueule, j'ai préféré lire les mots positifs d'un autre, parce que bon, je reste malgré tout positive. Hein.
Et cet autre, c'est...
L'autre, c'est Didier Tronchet, avec son petit traité de philosophie, qui est un grand classique, voilà, que beaucoup de gens connaissent déjà. C'est un livre qui date de 2000, je crois, qui vient de sortir en version BD aussi, qui est vraiment, c'est une petite merveille, quoi. Il faut lire ce truc. Le cycliste urbain est par nature un inventeur. La solitude, au milieu d'une marée automobile, lui confère le sentiment de devoir se battre pour imposer son univers. Son mode de transport archi-minoritaire le conforte dans l'idée qu'il vit l'ère glorieuse des pionniers, que tout reste à inventer. Et cette page blanche de l'histoire de l'humanité, écrite de ses pneus, est un beau défi qu'il relève chaque jour, en même temps que la tête, un œil sur la circulation, pour éviter d'être un martyr prématuré de la science. Voilà pourquoi, messieurs les automobilistes qui les insultaient, messieurs les agents qui les verbalisaient, voilà pourquoi les cyclistes décrivent des arabesques insaisissables sur la chaussée. Voilà pourquoi ils passent au rouge et roulent sur les trottoirs. Dans un organisme urbain où ils ne sont qu'un corps étranger, dans une cité hostile, ils inventent une façon d'être qu'on ne leur a pas prévue. Ils esquissent dans l'espace le brouillon d'une ville à vélo. Ils tracent, ils raturent. Leurs déboîtements sont des remords d'artistes. Ils sont tout à leur acte créatif dans la fièvre de l'ébauche. En attendant, cessez ces coups de klaxon, laissez tomber vos sifflets stridents, faites silence en suspendant votre respiration comme vous le feriez devant l'enfant qui fait ses premiers pas dans un équilibre sans cesse au bord de la rupture. Observez-les avec indulgence attendrie. Ils cherchent, en chancelant, un nouvel équilibre qui va remettre la ville en marche. Il arrive que la liberté papillonnante du deux-roues qui folâtre entre les voitures à l'arrêt, qui remonte les fils bloqués au feu rouge avec ce terre de le faire en sifflotant, excite l'agressivité du conducteur incarcéré. Le scarabée bousier, poussant inlassablement devant lui sa boule d'excréments, pourrait entretenir la même rancœur à l'égard du pan du jour, gavé de pollen qui volette, insouciant d'un cocktail d'étamine à un autre, s'il avait cette faculté de jugement dont le créateur de toutes choses l'a bien heureusement épargné. L'automobiliste, en revanche, l'a. Et à ce moment précis, gageons qu'il en souffre, et le signifie sans aménité. « Hé, le vélo, tu te crois tout permis, connard ?» Face à cette souffrance, qui n'est rien d'autre qu'un appel au secours mal exprimé, nous autres, hommes libres à vélo, surnageant au cœur des marées d'acier enchevêtrés, les bouchons, devons faire preuve de compassion et ne voir dans ce visage déformé par l'invective derrière son pare-brise qu'une sorte de comte de Monte Cristo emmuré dans son château d'If mobile, quoique, en l'occurrence, à peine. Et là, je vais passer donc au petit manifeste vélosophique pour terminer. C'est un manifeste en plein de points, hein, donc je vais en dire que quelques-uns. Or donc, nous, auteur du présent traité de philosophie, proposons au peuple de Paris et au-delà des grandes villes les mesures de salubrité publique suivantes. Point numéro 1. Les véhicules individuels seront regroupés à toutes les portes de la ville dans de gigantesques parkings surveillés et gratuits. Chaque parking offrira un éventail plaisant de modes de transport vers la ville. Métro, bus, tramway, vélo, taxi, vélo pouce, tandem, autruche avec une selle. On peut amener ses rollers. Le prix de ces transports sera démocratique. La concurrence le permettra. Numéro 2. Taxis, bus, camions de livraison et véhicules prioritaires, police et ambulance, roulent dans des couloirs spécifiques et n'empruntent que les grands axes. Leur rumeur lointaine nous évoquera sinistrement ce qu'était le monde d'avant, comme une piqûre de rappel. 3. Les bus à carburant propre seront à Impérial. L'étage supérieur, découvert, permet de profiter de la qualité de l'air et d'une vue imprenable sur la ville. Les couples, légitimes ou non, sont fermement invités à s'y embrasser. 4. Les chauffeurs de taxi auront reçu une formation psychologique très poussée, leur permettant de garder le sourire, même quand la course n'est pas assez longue à leur goût, en cas d'absence de pourboire ou de couleur de peau non homologuée par eux. 5. Il sera demandé aux cyclistes de fredonner en pédalant.
Le refrain de l'un sera saisi au vol par l'autre et propagé un troisième. Les chansons pourront ainsi essaimer à la manière du pollen. Les personnes en tandem chanteront en canon. Article 28 bis. On notera, toutes ces propositions semblent procéder davantage de la rêverie que du critère de faisabilité. Faisabilité, l'horrible mot. Quand on l'a prononcé, on est tout accablé de sa pesanteur. On n'a plus envie, plus rien n'est faisable. C'est qu'une ville ne doit pas être pensée, mais rêvée. Ne jouons pas, petits bras. Il s'agit du destin commun de millions de personnes. Prenons nos responsabilités, rêvons. La réalité se chargera bien assez tôt de jouer les rabat-joie, les grands ratiboiseurs avec ses critères de faisabilité. La rêverie est un mode d'approche du réel très particulier, dont le vélo est un vecteur tout désigné, on l'a dit. C'est en quelque sorte une sœur indigne de la pensée, voire répudiée, mais dont la liberté fascine, fait envie. C'est une barque aux amarres détachées et qui vogue, insouciante, sur les courants secrets pour quelquefois parvenir au même endroit que la troupe de rameurs exténués. Voilà pourquoi, à l'issue d'un siècle fracassant qui a vu le triomphe de la pensée volontariste, avec parfois ses dégâts irrémédiables, dont la voiture fut un bel emblème, l'a-t-on dit, il faut réhabiliter la force de la rêverie. Car il s'agit bien de force. La rêverie, plus souvent qualifiée de douce, elle l'est aussi, et c'est sa force, est une arme d'une puissance insoupçonnée. La posture naturelle de relâchement et d'ouverture qu'elle implique libère dans l'atmosphère des énergies emprisonnées, dont les effets invisibles seront un jour mesurés par une quelconque échelle de Richter. Aussi, quand vous verrez passer un cycliste rêvassant, ne vous fiez pas à son allure inoffensive et bonasse. Il prépare la conquête du monde.
Vous venez donc d'entendre un extrait lu par la nomade sédentaire du petit traité de vélosophie, écrit par Didier
Tranchet.
Donc notre sujet suivant, c'est l'agressivité. C'est le lien parfois conflictuel qu'on peut avoir avec les automobilistes. Et cette idée est déjà trottée depuis un moment dans notre tête. On s'est demandé comment aborder la chose dans les sockets en titane. Et puis il y a un post qui est passé sur le groupe Facebook « Le cycliste bruxellois est content ». Et ce post avait assez bien résumé la chose, vu qu'il était très pragmatique. Et je vais vous le lire ici, c'est très court. Hier soir, j'ai fait un doigt d'honneur à un automobiliste qui m'a klaxonné dessus. Après quelques minutes, celui-ci m'a rattrapé et m'a exprimé verbalement sa colère. Et depuis, je me sens pas très bien. Le fait est que j'ai doublé sans le signifier clairement un autre cycliste et que j'étais en tort. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai fait ce doigt d'honneur ? Par pur réflexe. Et c'est là mon problème. Je n'ai pas contrôlé mon geste. Je n'ai pas réfléchi sur ma responsabilité du moment. J'ai juste répondu à ce klaxonnement. Et par ailleurs, j'ai moi aussi déjà exprimé ma colère face à d'autres cyclistes qui m'ont adressé ce geste alors qu'ils étaient clairement en tort. Je sais que c'est stupide, c'est un stupide réflexe qui peut être source de problèmes. Bref, je suis fautif. Et peu importe le stress du trafic, le fait que toutes les semaines je risque de me faire choper par des voitures qui ne mettent pas leurs clignots, qui ne regardent pas dans leur rétro, je ne peux changer qu'une seule chose, ne plus jamais réagir comme ça et ne plus oublier, même pour un bête dépassement, qu'il faut indiquer mon intention. Je ferai attention à cela et je m'y engage. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, par cette facilité à faire des doigts d'honneur un peu trop simplement et promptement, peut-être que mon histoire peut vous faire du bien aussi. Alors c'est clair que pour avoir depuis plus de 20 ans roulé à Bruxelles, dans le cas qui me concerne, des doigts d'honneur, j'en ai fait des tas et des tas et des tas. J'ai même shoté dans des portières avec mes pieds, j'ai déjà tapé sur des... J'en suis venu aux mains. Après, aux mains sur une carrosserie, c'est tout de suite un peu plus dur que sur quelqu'un. Mais en attendant, j'en suis venu au contact. J'ai même craché un jour sur une voiture. Enfin, pour vous dire qu'ici, je vous confie mes plus sombres déboires. Et puis un jour j'ai dit non, c'est pas possible, parce que au final je partais souvent je m'enfuyais au lieu d'assumer la bagarre. La plupart du temps je me barrais, donc c'était très lâche et j'en ai honte, et je me confie ici pour exorciser cette faute qui est mienne. Et en tout cas ce qui m'est apparu le plus clair, c'est que finalement, il fallait répondre peut-être avec des cœurs. Moi, c'est mon avis, avec des cœurs, avec de l'amour, avec des bisous. Ouais. Et maintenant, moi, ce que je fais, je m'arrête. Et je reste là et j'essaye de garder mon calme parce que de toute façon, dès que je suis essoufflé et énervé, ben, y a rien d'audible qui sort de ma bouche. Alors si jamais il faut que je menace un petit peu, il m'arrive de prendre mon vélo en main et de faire mine de vouloir le jeter sur le capot de la voiture. Mais en fait, ça, c'est quand même assez exceptionnel.
Ah, quand même.
Alors, des fois, j'ai ouvert des portières en roulant. Oula. Aussi, je vous le dis. Oui, non, j'ai, mais je ne le fais plus. Donc, des gens qui se sont retrouvés. Alors, c'est honteux. C'est pour ça qu'on peut en arriver à des comportements extrêmes qui, à côté du doigt d'honneur, finalement, ne sont pas grand-chose. Parce que je vous dis qu'un automobiliste qui roule, même si vous a grillé une priorité de droite, lui ouvrir sa portière alors qu'il est en train de rouler, ça lui fout vachement les boules.
J'ai jamais essayé, j'avoue.
Non, il vaut mieux pas, Katia. Je te le dis. Et je pense que personne ici ne devrait faire ça. Et donc, c'est pour l'avoir fait ici que je vous dis non. Laissez tomber cette histoire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des réactions aussi extrêmes.
Au début, j'étais pareil, quoi. J'étais là, tu te prends une injustice, deux injustices, trois. Et puis au final, au quatrième ou au cinquième, t'éclates, quoi. Et tu te tapes sur le toit. Et puis j'ai arrêté, en fait. Parce que pour moi, le vélo, c'est un moment de plaisir, à la base. Et j'en avais marre d'arriver au boulot avec la boule au ventre à cause de tous les moments de frustration que j'avais eu sur mon chemin. Et que je vais remarquer que même je m'énervais toute seule, en fait. Parce que c'est pas possible de communiquer avec la personne qui est dans une voiture. Il y a la fenêtre, il y a le pare-brise, tu peux pas communiquer. Et le dialogue n'est pas possible. Donc maintenant, j'écrase. J'avoue, la plupart du temps, je prends sur moi, je dis tant pis, ok, voilà. Parce que j'ai pas envie d'arriver avec la boule au ventre, j'ai envie que ça reste un moment de plaisir. Et si vraiment, il y a eu vraiment quelque chose qui m'a mise en danger et que j'ai l'occasion d'entamer un dialogue, par exemple au feu ou quoi, là, je vais le voir, j'essaye de respirer à fond avant d'y aller, parce qu'il y a l'adrénaline, tu sais, et c'est ça qui fait qu'on fait des doigts d'honneur, qu'on tape sur les voitures, c'est l'adrénaline, hein. On a eu peur, quoi. Et là, je dis ça, en fait, je dis « vous m'avez fait peur ». Et quand tu expliques ce que tu as ressenti et qui t'ont fait peur, la plupart du temps, en fait, j'ai découvert ça. Le plus souvent, ils ne s'en sont même pas rendus compte. C'est de l'ignorance. Ce n'est pas de la malveillance la plupart du temps, c'est de l'ignorance. Ils sont distraits et ils ne t'ont pas vu. C'est vrai, hein, ils ne t'ont pas vu, quoi. C'est révoltant, mais voilà, c'est un fait. Donc, la plupart du temps, c'est ça. Et maintenant, voilà, la plupart du temps, je prends sur moi et j'écrase. Ou voilà, si vraiment j'en ai l'occasion, j'essaie d'entamer le dialogue. En général, ça se passe bien quand j'arrive à rester calme. Voilà, parce qu'il m'est arrivé des sales aventures aussi, au début aussi, où que je m'énervais et que là, je tombais, je ne sais pas si toi, Clément, ça a été le cas, mais sur des gros baraquets qui étaient prêts à en venir aux mains, quoi, je veux dire.
Moi, j'ai eu une course-poursuite une fois. Je n'arrivais pas à passer sur le côté, donc évidemment, j'étais passée par l'autre côté. Donc, bon, d'habitude, nous, on dépasse par la droite, les cyclistes, et donc là, j'étais passée par la gauche. Et donc, je suis revenue vers lui, et à ce moment-là, il m'a vu.
T'as le droit de dépasser par la gauche.
Oui, j'ai le droit. Mais derrière, il me voyait en train de zigzaguer un peu pour me dire est-ce que je vais passer à gauche ou à droite. Finalement, je suis passée à gauche, et au moment où je suis passée devant lui, il a accéléré, quoi. Et donc là, moi, je me suis retournée parce que déjà, j'ai eu peur. J'ai senti un gros bruit derrière moi. Donc, je me suis retournée. J'ai un peu perdu l'équilibre de mon vélo. Et là, effectivement, j'ai fait un doigt d'honneur. Et puis, j'ai crié, hein, mais t'es malade ou un truc comme ça. Et là, je décide de repartir dans la rue à droite. Et j'entends son moteur qui gronde. Le gars qui redémarre et qui me poursuit. Et là, je me suis dit, bon, j'ai accéléré super vite, super vite. L'avantage de Saint-Josse, c'est qu'il y a beaucoup de rues à sens unique. Et donc, je me suis engouffrée dans une suite de rues à sens unique. Et je le voyais dans la rue parallèle, toujours en train d'essayer de me chercher. Ouais, j'ai eu super peur.
Ouais, hein. Ouais,
je le voyais toujours en train d'essayer de me chercher, de me chercher, de me chercher. Puis finalement, j'ai continué à prendre les rues à sens unique et je suis arrivée chez
moi.
C'est
quand même fou d'en arriver à des extrêmes.
Ouais,
pareil,
j'ai vraiment eu peur.
Mais il y a une escalade qu'il faut éviter, évidemment.
Oui, voilà. J'ai une nouvelle astuce aussi pour quand... Et après, je te laisse parler, Jean-Philippe. Mais avant que j'oublie, tu sais, ils ont souvent du mal à rouler derrière un cycliste. Hein, vous avez remarqué, c'est comme derrière le bus. Il faut absolument dépasser le bus, il faut absolument dépasser le cycliste, quitte à se retrouver au feu, voilà, de
quitte
nouveau
à ce que
à
le cycliste redépasse trois fois après.
Exactement, et c'est ce qui se passe les trois quarts du temps. Donc, il y avait cet automobiliste qui me dépasse en pleine descente en plus. Donc, j'allais déjà à 30, ce qui était la limite de vitesse déjà à ce moment-là. Et lui, il me dépasse absolument pour me retrouver un peu... pour s'arrêter juste après, en fait, pour se garer. Fait que là, je suis allée le voir et j'ai dit « Monsieur, votre zizi ne va pas tomber si vous roulez derrière un vélo. Hein. » Il a trouvé ça très amusant. De nouveau, j'avais bien respiré avant d'aller lui dire. Mais ça marche. Enfin, ça ne va peut-être pas marcher avec tous les automobilistes, mais voilà. C'est les informer quand même. Parce que souvent, très souvent, c'est des hommes quand même. Je ne veux pas faire de ségrégation, mais c'est quand même un fait. Et c'est une question de virilité. Hein. Rouler derrière un vélo, c'est quand même une atteinte à la virilité. Donc, c'est bien de le rappeler que le zizi ne va pas tomber s'il roule derrière deux minutes.
Jean-Philippe, tu voulais dire quelque chose ?
Je pense que Katia t'a brossé pas mal d'aspects de cette question de l'agressivité et de la violence dans le trafic. En fait, la première chose à laquelle j'avais réfléchi en réfléchissant au sujet, c'est que l'agression, elle est attestée pas seulement dans le trafic, mais d'une manière générale entre les animaux, d'une manière très générale, et certainement aussi chez les grands primates que nous sommes, parce que nous sommes des grands primates. Et cette agressivité a vraiment des fonctions pour ces animaux, notamment celle de défendre le territoire. Mmh. Et il y a une dimension très territoriale dans le trafic, surtout dans un espace urbain dense où il n'y a pas beaucoup de place, et surtout quand il y a des inégalités, parce qu'une des autres dimensions de l'agression, c'est l'inégalité qui peut mener au sentiment d'injustice. Un des grands slogans des années 70-70 pour les Suisses et les Belges, c'est « partageons la route ». Mais quand un automobiliste partage la route avec un cycliste, c'est un tas de ferraille d'une tonne 5 qui partage la route avec un tas de ferraille de 15 kilos. Donc ce partage, il n'est pas vraiment égalitaire, et ces inégalités peuvent générer des tensions. Il y a aussi que les gens dans cet espace ont des attitudes et des besoins complètement différents. Et la manière de démarrer, la manière de tracer sa trajectoire n'est pas du tout la même pour un automobiliste et pour un cycliste. Et ça peut créer des grosses incompréhensions. Et l'incompréhension aussi, c'est une source d'agressivité. Mmh. Sans compter que ces incompréhensions peuvent se cristalliser dans ce qu'on appellerait des groupes, des in-groups et des out-groups. Il y a un « eux », il y a un « nous ». Comme tu disais tout à l'heure, Katia, un automobiliste aujourd'hui sera dans l'après-midi ou le lendemain un cycliste. Mais je dirais que c'est un peu la machine qui fait l'homme ou la femme. En tout cas, on est fort déterminé, on est un peu trop déterminé par nos machines, et on oublie en tant que cycliste qu'on va devenir piéton ou que le lendemain, on sera peut-être dans une voiture. C'est ce qui est de plus en plus rare pour la majorité d'entre nous, puisqu'on est de plus en plus des purs cyclistes. Mmh. Mais les automobilistes, eux, découvrent le vélo et quelquefois, ils changent complètement de point de vue. Quand on les met en selle, il y a des expériences de pro-vélo qui montrent ça. Voilà. Donc, c'est quelques aspects. L'aspect in-group, out-group, donc des groupes qui se cristallisent. Il y a l'aspect territorial. Bien entendu, dans le vélo, il y a une dimension qui ne vous a pas échappé, c'est la dimension sportive. Et qui dit sportivité, dit compétition, dit dominance, dit donc presque tout de suite puissance, voire agression. Mmh. On a souvent, en tant que cycliste urbain pépère, été dépassé par des cyclistes en moule bite qui roulent à fond la caisse.
Vraiment.
Et qui disent « pousse-toi de là que je m'y mette ». Voilà. Il y a l'idée de puissance et il y a l'idée d'adrénaline. Quoi. L'adrénaline est là pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est l'expression physique d'une énergie et puis aussi parce qu'elle a peur. Il y a toutes ces dimensions-là, c'est un phénomène complexe. Je suis assez étonné du mea culpa de cette charmante cycliste que tu évoques, Clément. La plupart du temps, j'entends plutôt des plaintes de cyclistes agressés violemment par des automobilistes, voire traqués, poursuivis de rue en rue par des automobilistes, ou renversés et laissés pour compte sur le bord de la voie.
Ouais.
Donc c'était un témoignage intéressant, en ce sens qu'il essaie peut-être de faire baisser l'agressivité, ouais, en réfléchissant à réfléchir à son comportement.
Je ne sais pas si c'est quelque chose de féminin, mais moi aussi, il m'est arrivé, parce que le doigt d'honneur, je trouve que c'est quand même quelque chose de relativement vulgaire quand même à faire.
Mm-hmm.
J'avais lu ce témoignage sur ce groupe Facebook, et j'avais ressenti exactement, je l'ai compris, cette fille, parce que moi aussi, quand il m'arrive de faire un doigt d'honneur, c'est vraiment l'adrénaline qui parle. Après, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais, quoi ? Enfin, c'est pas moi, je ferais pas ça dans la rue, un piéton, jamais je ferais un doigt d'honneur, tu vois. Ou...
Mais comme quoi, il n'y a pas que les automobilistes qui deviennent quelqu'un d'autre quand ils sont derrière un volant, en fait. Et donc, tu citais ProVélo, Jean-Philippe. ProVélo fait en avril et mai 2021 un projet qui s'appelle Switch à roues et qui permet à des automobilistes de prendre la place d'un cycliste, ouais, et des cyclistes de prendre la place d'un automobiliste.
Vie de cycliste, vie ma vie d'automobiliste.
Ouais, voilà. On en parlera avec eux en mars, dans l'émission de mars, puisque ProVélo est programmé pour l'émission prochaine. Et donc c'est un truc intéressant qui va clairement dans le sens de tout ce qu'on vient de dire. On va devoir enchaîner avec le collectif Alterpub. Le collectif des Alterpub, c'est un collectif qui pense qu'il est urgent, entre autres, de réinstaurer la publicité dans sa définition originelle, c'est-à-dire les lieux où l'on rend la chose publique, hein, comme autrefois, souvent à l'extérieur des mairies, là où il y avait le crieur public qui annonçait les lois, les décisions, les événements ou autres. Alors que voilà, la publicité aujourd'hui est récupérée, elle est déformée de son sens premier. Donc contre tous les mensonges, tous les non-dits, harcèlements que la publicité actuelle transporte, pour que l'on puisse se poser les questions sur les dérives et les abus qui en découlent, mais que l'on se pose aussi les questions des irresponsabilités, non pas des responsabilités, hein, ils disent directement des irresponsabilités, qu'elles soient individuelles, collectives, institutionnelles, systémiques, d'État ou royales, ce sacré roi pognon, le roi pognon, hein, comme ce collectif aime bien le nommer, parce que je lis ici leur texte de présentation, pour que chacun puisse, s'il le veut, se poser les questions des conflits d'intérêts qui règnent dans la basse-cour du roi pognon, lui qui possède presque tout et même les médias, et qui nous mène tous et toutes droit dans le plus grand génocide de tous les temps, génocide machiavélique et silencieux, raison pour laquelle il est urgent de s'opposer à toutes les stratégies des valets, laquais, sbires et pions de ce satané roi pognon.
Il s'est lâché, hein.
N'est-ce pas ? Et que tombe son règne archaïque, féodal et génocidaire. Je vais donc passer quelques-unes de ces publicités qui dénoncent les conditions salons. Donc, qui sait.
Ils sont sales cons.
Voilà, parce que le salon de l'auto n'ayant pas eu lieu cette année, ils ont quand même pris l'initiative de dénoncer ce lobby de la voiture qui pousse à acheter des gros véhicules et pas des petits trucs qui se faufilent facilement, qui ne polluent pas trop et qui se garent aisément.
Allô ? C'est pour les conditions sales cons. Est-ce que vous avez une voiture qui est un tout petit peu plus légère qu'une deux chevaux, qui roule un tout petit peu plus vite et qui consomme un tout petit peu moins? Ça n'existe pas. Et sur les petites voitures, qu'est-ce que vous avez comme promotion? Un allume-cigare, c'est tout. Ah, sur les grosses voitures, les 4x4 et les SUV, les hybrides, les voitures nucléaires. Non, merci. Non, ben c'est comme ça, moi je viendrai pas à vos conditions de sale con.
Ah dis donc, je mâche très bien un SUV Volkswagen, Porsche ou bien Audi.
Attends, mais ils ont pas un peu un logiciel trafiqué contre les normes de pollution?
Ah mais non, mais pas du tout. Depuis que la Commission européenne a réduit les normes, ça ne pollue plus.
Ah ben dans ce cas-là, rejoignons vite les conditions sales cons.
Vous ne savez pas expliquer à vos enfants la faim? La faim dans le monde? La faim du monde? Participez, soyez proactifs, achetez un 4x4 ou un SUV. Profitez des conditions sales cons.
Tartampion, tu peux nous expliquer un peu la démarche qui est la vôtre de ce collectif?
Nous, on considère que le vélo, c'est aussi et d'abord, avant tout, un outil de transition qui est à cheval à la frontière des utopies. Donc il y a le monde dans lequel on est qui nous mène tout droit dans un génocide. Il faut pas savoir lire beaucoup pour savoir à quel point c'est une catastrophe. Et en gros, on dénonce cette vague de publicité qui vient du harcèlement sur les grosses voitures, les 4x4, les SUV. 25% des voitures à l'heure actuelle qu'on achète sont des grosses voitures qui font presque 2 tonnes. La première pub, elle est assez intéressante parce que il n'existe pas de voiture à l'heure actuelle qui soit avec le poids d'une deux chevaux et qui consomme moins qu'une deux chevaux. Donc au 21e siècle, dans ce grand génocide silencieux, nos fabricants de voitures ne sont pas capables de faire ça. Et on pose la question, il y a toute une série de petites pubs comme ça, où on aimerait bien que des radios libres ouvrent la porte à ça, parce que c'est un des derniers écueils de l'expression.
Tu es un cycliste au quotidien, évidemment.
Oui, tout à fait.
Tu as le permis voiture ou pas?
J'ai le permis voiture. Ça fait quelques années que j'ai décidé de ne plus rouler. Ah, je vais en profiter pour rebondir sur les pistes cyclables. Parce que nous, on essaie de parler vrai, de remettre des choses justes. Le sens de l'idée de faire de publicité, c'est de remettre de la vérité. Je veux dire, on nous a assez harcelés avec la voiture zéro émission. Quand on parle des irresponsabilités, il y a un comité d'éthique publicitaire. Il a fallu plusieurs années avant qu'il bouge. Contre des publicités qui disent qu'il existe des voitures zéro émission, mais j'ai...
Ouais, tu voulais qu'on n'oublie pas le fait qu'il y a eu des logiciels pour trafiquer les émissions aussi.
Acheter une Volkswagen après un scandale pareil, je veux dire qu'une multinationale ait payé des ingénieurs, que ce soit passé par des approbations, enfin ça veut dire que ça fait beaucoup de gens qui sont au courant d'histoire au travers ça, pour tricher sur les normes de pollution. C'est quelque chose d'inacceptable. Et quand la Commission européenne se permet de réduire les normes de pollution pour que Volkswagen ne doive pas réparer ses voitures, elle se rend complice du plus grand génocide du tous les temps.
En tout cas, non, ni nous, on n'ira pas aux conditions salon. On se tient au courant. À bientôt. Allez. Salut, Tartampion.
Salut.
Et que ça roule à l'éthanol de houblon, quand même.
Ça, merci pour ta conclusion. Merci
et bonne soirée à vous. Et bonne soirée à tout le monde.
Exactement. Merci d'avoir été à l'écoute. Ciao.